on travaille très fort du côté de l'Office d'habitation Rimouski-Ninjette pour maintenir un parc avec des logements sociaux qui sont abordables, mais qui sont également là, qui sont maintenant au goût du jour, là, vu, on le voit depuis plusieurs années, vous faites plusieurs rénovations, puis on veut maintenir ça propre.
Oui, c'est des logements qui s'adressent à une clientèle qui est admissible aux programmes sociaux là, en matière d'habitation. Mm-hmm. Faut comprendre que le parc HLM au Québec, c'est un parc immobilier qui va avoir entre 50 et 35 ans d'âge. Donc, les derniers projets d'habitation ont été construits là, au début des années 90 au Québec. Ici, à Rimouski, on a un bâtiment aussi qui a été construit au début des années 90, tandis qu'on a aussi un des premiers bâtiments HLM qui a été bâti au Québec, mm-hmm. sur la rue Lamoureux, la
fameuse place du parc.
Exactement. Ouais. C'est un projet d'habitation qui a été construit en 1969. Donc, c'est donc dire que c'est des projets d'habitation qui ont un certain âge, puis c'est des projets qui, dans notre jargon, on dit, ils arrivaient en fin de convention. C'est des projets qui avaient été financés à l'origine par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, et ces ententes-là étaient d'une durée de entre 30 et 35 ans. Donc, lorsque les projets arrivaient en fin de convention, le provincial, voulant bénéficier aussi de la contribution du fédéral dans ces projets-là, nous invitait à soumettre des projets de rénovation ou, dans certains cas, de régénération, hein, tout dépendant de l'état des bâtiments. Donc, c'est ce qu'on a entrepris faire, nous, à partir d'à peu près 2012, où les travaux majeurs, de façon plus importante, ont débuté à Rimouski. Ce qui est particulier avec notre projet, puis quand je parle d'un projet, c'est quelque chose qui va s'échelonner sur plus d'une décennie, en fait, mm-hmm. Notre projet. Mais à partir de 2017, nous, on a choisi de réaliser l'ensemble de nos interventions en régie interne à l'office d'habitation.
Ça, c'est important parce que vous êtes probablement un des seuls offices d'habitation qui procédait de cette manière-là. Ouais. Puis en régie interne, il faut dire que c'est vous-même qui faites vos travaux. Vous ne passez Exactement. Pas par des contracteurs.
Ah ben, à notre connaissance, on est le seul office au Québec qui gère le parc immobilier de cette façon-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous, on agit à titre d'entrepreneur général sur nos bâtiments. Mm-hmm. Donc, on a nos charpentiers menuisiers à notre emploi, notre chargé de projet, nos techniciens en bâtiment qui font le suivi de travaux, la préparation des devis. Mais on fait quand même appel à l'ensemble des sous-traitants, là, quand on pense
plombier, l'électricien, tout ça,
les systèmes intérieurs, les cuisines, les planchers. Donc, on fait quand même partie, là, je dirais, de l'écologie là, du monde de la construction de Rimouski à pleine, de façon entière. Mais l'avantage que nous donne ce modèle d'opération-là, c'est que nous, on opère 12 mois par année.
Donc,
lorsqu'on a décidé de prendre cette orientation-là en 2016-2017, ce qu'on voyait, c'est qu'on perdait beaucoup de temps, nous, à attendre la confirmation des budgets. Ensuite, lorsqu'on avait nos confirmations de budget, aller en appel d'offres public. Puis là, d'année d'année, souvent, les entrepreneurs changeaient. Donc, les entrepreneurs devaient s'approprier aussi nos façons de faire, nos attentes, les projets qu'on gérait. Parce que la particularité d'un parc HLM, en fait, puis c'est à peu près la même chose partout au Québec, c'est que c'est des bâtiments qui se ressemblent beaucoup. Mm-hmm. Donc, lorsqu'on fait une intervention dans un bâtiment, normalement, 2-3 ans plus tard, lorsqu'on va être rendu dans un autre ensemble immobilier, ça va être le même type d'intervention, ça va être le même bâtiment. Souvent, les devis d'architecture, mm-hmm. il n'y en avait pas 50 lors du développement du parc HLM, là. Donc là, ce qu'on a réussi à créer, nous, avec notre modèle en régie interne, c'est une optimisation des travaux parce que les charpentiers menuisiers qui travaillent pour nous, nous, on n'a eu aucun roulement. Là,
les
11 personnes qui travaillaient pour nous en 2018. Donc, c'est des gens qui ont acquis une expérience puis une expertise dans nos bâtiments. Donc, l'intervention se fait aujourd'hui beaucoup plus rapidement qu'elle se faisait au début. Là.
Et vous dites aussi, ça c'est intéressant, ça m'a surpris beaucoup, vous dites économiser là, plus de 10 %. Là. Ouais. Donc, ben, ça
l'explique. Ça l'explique en partie. Parce que lorsqu'on devient plus efficient dans nos opérations, ben, ça nous permet là, d'en faire plus en moins de temps. Ça nous permet de mieux planifier des travaux. Lorsqu'on fait des projets pilotes, là, ben, là on n'en fait plus, là. Les projets pilotes sont terminés. Là. Mais lorsqu'on faisait des projets pilotes, bien là, on trouvait en fait les problématiques majeures sur un type de bâtiment. Mmh. On trouvait des techniques pour s'adapter à ça. On trouvait le produit, le matériau qu'on devait utiliser, meilleur rapport qualité-prix. Toujours dans une optique aussi de développement durable. C'est certain qu'on notre objectif quand on refait des travaux comme ça, c'est pas de remettre les bâtiments dans l'état où ils l'étaient, c'est d'optimiser, se mettre au niveau de
du jour.
Au jour, au niveau de la performance énergétique des bâtiments. On met beaucoup, beaucoup d'emphase, nous, sur l'étanchéité des enveloppes, sur l'isolation. d'isolation, ce qui nous permet aussi, à terme, puis ça, on l'a constaté dans les factures d'électricité, parce que
l'ensemble,
ça paraît beaucoup. Oui. Dans certains projets d'habitation, on parle de 25 % d'économie d'électricité.
OK, mais vous avez... Oui,
oui, mais tu sais, souvent, là, je regarde, puis tu sais, on a des discussions, moi et Michel, hors d'onde, on en a également en onde, là, par rapport à au coût de construction, puis à quel point, tu sais, rénover, ça peut coûter cher ou quoi que ce soit. Oui, vous avez probablement des subventions, vu que c'est des HLM, mais demeure que vous avez quand même de l'argent à sortir de vos poches pour pouvoir maintenir à jour et en ordre les logements là, HLM actuels. Comment vous faites pour pouvoir... Tu sais, oui, là, vous avez des employés, vous sauvez de l'argent à ce niveau-là parce qu'ils sont plus rapides, sont plus efficaces, mais vous avez probablement une façon de faire qui fait en sorte que vous êtes capable, malgré que vous augmentez pas les loyers de façon considérable, vous êtes capable de faire des rénovations.
Ouais.
À faible coût quand même.
Mais je vous arrêterai, la notion d'augmentation de loyer n'existe pas dans le monde HLM. Oui. Parce que les gens payent 25 % de leurs revenus. Donc, les programmes ne changent pas. Y a un élément, par exemple, qui est important de comprendre, c'est que quand on fait une rénovation comme ça, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on recapitalise l'actif. Donc, faut pas mêler les coûts d'opération du programme HLM, qui, eux, ont essentiellement pas changé au courant des dernières 50 années, parce que les normes restent à peu près les mêmes. Donc, c'est des programmes qui fonctionnent évidemment au déficit d'exploitation. Lorsqu'un locataire perd 25 % de son revenu, même en 1969, ça payait pas l'actif.
Ben oui.
À la fin de l'année, il y avait un déficit d'exploitation, puis après ça, la loi sur la Société d'habitation du Québec fait la répartition de ce déficit-là entre le gouvernement provincial et la municipalité. Dans les projets qu'on parle aujourd'hui, dans les projets de régénération qu'on fait, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient recapitaliser l'actif. Donc, tantôt, quand je vous parlais des fins de convention d'exploitation, c'est-à-dire que ces projets d'habitation-là étaient comme une maison, là, étaient mis sur une hypothèque de 30 ans. On arrive à la fin de cette hypothèque de 30 ans-là. Donc, là, on a un actif qui a une valeur.
Oui.
Donc, là, on le recapitalise pour faire ces travaux-là.
Mais donc, on fait comme on fait lorsqu'on a notre maison est payée, on réemprunte sur la maison. C'est ça, la recapitalisation.
Exactement. Pour maintenir l'actif. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que ces ensembles immobiliers-là sont bien intégrés dans la trame urbaine. Ils sont bien intégrés, puis on a tout intérêt aussi comme collectivité, comme communauté, de bien les entretenir, parce qu'après ça, tous les propriétaires privés qui sont autour de ces projets d'habitation-là ne voudraient pas avoir, par exemple, un ghetto mal entretenu au cœur d'un quartier.
Oui.
Donc, moi, je pense que c'est dans l'intérêt de la communauté, puis de la collectivité et de la ville de Rimouski, ultimement, de s'assurer que ces ensembles immobiliers-là sont au goût du jour, sont esthétiquement très intéressants, s'intègrent bien dans les communautés, d'autant plus qu'ils sont aussi très bien localisés.
Oui.
C'est des ensembles immobiliers qui sont près du centre-ville. Donc, par rapport à l'accès aux services, tu sais, moi, j'invite des... Régulièrement, j'ai des amis qui viennent en ville, puis on se promène en ville, puis là, je leur montre des projets d'habitation, puis il y a des gens qui n'imagineraient jamais que c'était des projets HLM. Là.
Ben effectivement, hier, j'avais là ma sœur qui était là avec nous, qui est venue manger, puis j'ai fait faire le tour de la ville, puis je peux te dire que elle était très impressionnée. Elle pensait que c'était des condominiums, là, on parlait des Jardins Saint-Barnabé. Donc, que vous avez d'ailleurs réalisé là, en régie interne, c'est un magnifique travail.
Effectivement. Là, dans le cadre des Jardins Barnaby, c'est un exemple où est-ce qu'on a fait appel à un entrepreneur de la région pour ce qui est du revêtement extérieur.
Oui.
Parce que là, considérant la hauteur du bâtiment, c'était une hauteur où nos classes de licence ne nous permettaient pas d'intervenir à cette hauteur-là.
Oui.
Donc, pour l'enveloppe extérieure, on a fait affaire avec un entrepreneur général, tandis que l'ensemble de la rénovation de l'intérieur du bâtiment, on parle de 40 quelques logements dans ce bâtiment-là, mais c'est un projet qui est en cours, là, en fait, qui va se terminer l'année prochaine.
Oui. Et vous avez tellement apprécié ça que là, ce que disait le reportage de Radio-Canada, là, M. Boulian, c'est que vous avez même des projets de construction en régie interne. Ça, là, c'est nouveau.
Mais en fait, ça fait quelques années qu'on a ces discussions-là avec la Société d'habitation du Québec qui gère les programmes de développement, en fait. Puis nous, notre position, c'est qu'éventuellement, avec la compétence et l'expertise qu'on va avoir acquis au courant des 10 dernières années en construction, rénovation, régénération, qu'on serait tout à fait apte éventuellement là, à développer les projets d'habitation sociale à l'intérieur de la ville de Rimouski, à l'intérieur des clauses de licence, évidemment, là, qui vont nous permettre de le faire. Là.
Est-ce que vous en avez dans les cartons?
On va soumettre, en fait, là, on a un projet en attente. On a soumis un projet en ce moment qui a été diffusé déjà dans le passé, là, les Jardins du village Saint-Paul-David. On est en attente d'une réponse à l'automne pour ce projet-là dans le cadre de l'appel d'offres de l'ICRL 3. Et on entend soumettre dans le cadre du FAC 2, qui est le programme qui vient d'être annoncé. Donc, c'est des programmes de différentes juridictions. Le l'ICRL est de fédéral, le FAC est d'initiative provinciale. Donc, on va soumettre dans le cadre du FAC 2, là, tout probablement, un projet d'habitation là qui reste à déterminer où on pourrait le placer, mais celui-là, on va le soumettre dans une optique où on serait le développeur, on serait le constructeur de ce projet.
OK, mais vous parliez du premier, là, c'est pas le village Brisson plutôt que le village Saint-Barnabé?
Oh, le village Brisson, oui. Les jardins du village Brisson,
oui.
Excusez-moi.
Donc, oui, ça, j'étais au courant de ce projet-là, c'était dans
ce projet-là a été soumis et est en attente d'une réponse.
Ah, OK, donc on pourrait avoir une réponse bientôt?
On s'attend aux réponses à l'automne, on nous a dit.
Et pour combien de logements?
Ce projet-là devrait être 63 logements.
Oh, donc c'est quelque chose d'important. Puis c'est dans le secteur de l'ancien village Brisson, ce qu'on appelait Saint-Agnès-Sud ou Brissonneville dans le temps. Oui. Donc, c'est quelque chose de fort intéressant. En plus de ça, on va revenir d'ailleurs, là, si vous le voulez bien, là, Monsieur Bouliane, à la situation actuelle là, du logement à Rimouski. Oui. Est-ce que vos logements sont pleins? Là? On disait que c'est rempli, on ne peut plus accueillir de gens. Là.
Mais ça va de soi. Les projets d'habitation sous notre gestion en ce moment... Nous, on a un taux de vacance qui est à 0 %, oui. En fait, toujours. On a des projets en ce moment au niveau de tenter de trouver des solutions temporaires.
Oui,
on travaille avec des partenaires. La majorité des citoyens qui vivent une problématique en ce moment au niveau du non-logement ont des solutions temporaires. Il y a très peu de ménages. On parle en date d'aujourd'hui d'à peu près 7 ménages dans la MRC Rimouski-Neigette qui doivent être hébergés de façon urgente, on va dire ça comme ça, qui sont pris sous la charge là, du service d'aide à la recherche du logement et pour lequel on cherche des solutions permanentes, évidemment. Là, c'est ce qu'on tente de faire. On évalue à peu près 72 ménages en ce moment dans la MRC Rimouski-Neigette qui seraient dans une situation là, de recherche du logement. Puis sur ces 72-là, il y en a une cinquantaine que la situation temporaire risque de devoir...
devenir permanente.
Ouais, mais risque de devoir problématique au courant des prochains mois.
Oui.
Les médias associent beaucoup le 1er juillet au pic de la problématique de logement, mais dans la gestion réelle, c'est souvent, je dirais plus au mois d'août que la problématique la plus criante.
Avec l'arrivée des étudiants.
Ouais, avec la mobilité, les transferts, je vous dirais que puis en raison de la nature temporaire des solutions temporaires, je voudrais aller habiter chez sa belle-sœur pour un mois, ça va, un mois et demi, ça va.
Ouais, mais c'est ça, mais six, ça va moins. Là.
Exactement. Donc là, nous là les enjeux qu'on voit poindre là, puis comme on voit chaque année en fait là, c'est vers la fin du mois de juillet, mi-août, est-ce que là on doit se mettre au travail là, pour trouver des solutions permanentes.
Puis il faut aussi vous distinguer, là, je crois, là, y a quelqu'un qui m'a fait part de ça, de vous distinguer de Servilage aussi. Servilage, c'est un de vos bras, mais qui développe un seul projet.
Bien, en fait, il faut comprendre que Servilage, légalement, n'est pas un bras de l'Office d'habitation.
Okay.
Servilage a été fondé par l'Office d'habitation en 2014 et s'est dissocié de l'Office d'habitation en 2020. Pour, je vous dirais, des prérogatives de programme. Souvent, les programmes, un organisme va être plus agile s'il est inscrit légalement comme un organisme à but non lucratif, indépendamment d'un office.
Okay.
Parce qu'un office est quand même un organisme public qui est assujetti à la loi de la SHQ. Donc, pour avoir accès, disons, à une plus grande panoplie de programmes puis une plus grande panoplie de façons de faire, il a été choisi là, en 2020 que Serviloge se dissocie de l'office. Mais il en demeure pas moins que dans la mission de Serviloge, l'objectif est de desservir les mêmes clientèles que l'Office.
Créer
donc, il y a évidemment un partenariat qui existe entre l'Office et Serviloge. L'Office va servir un peu comme de vecteur, de canal pour que les clientèles qui vont choisir d'habiter les projets de Serviloge, mais ça va passer normalement par l'Office. L'Office va opérer la sélection, l'Office va faire le référencement.
On dit que actuellement il y aurait 1700 là, logements sociaux là, vacants au Québec. Du côté de Rimouski, ben ça c'est parce que tu sais parfois on a besoin justement d'entretien, on a besoin de donner un petit peu d'amour pour ces logements-là. Est-ce qu'à Rimouski, il y en a certains qui sont vacants à cause de ça?
Non, il y en a pas.
Il y en a pas actuellement.
Les logements qui sont vacants en ce moment à Rimouski, il y en a peut-être une vingtaine là, entre 15 et 20 sont soit en travaux en ce moment, donc évidemment on peut pas loger des gens dans des logements en travaux ou ils viennent d'être libérés au courant des derniers mois pour entamer des travaux à l'automne.
Okay.
Dépendant de la nature des travaux, nous, comme je vous ai dit tantôt, on travaille sur une période de 12 mois par année. Donc, évidemment, on fait pas des travaux de revêtement entre décembre et mars. On pourrait, là, mais il y aurait des coûts à ça. Donc, dans notre planification de travaux, nous, on planifie à peu près 3 ans à l'avance les séquences de travaux parce qu'il faut comprendre aussi que compte tenu que l'ensemble de nos logements sont occupés par des locataires, on doit tout planifier nous, on appelle ça une gymnastique là, de déplacement. Donc, mm-hmm. les gens, lorsqu'on les approche, on dit, bon, là, on va rénover votre logement.
Oui.
On leur offre toujours l'option soit de déménager une seule fois dans un logement qui est déjà rénové, ou s'ils souhaitent revenir dans le logement qu'ils habitent. Mais là, il faut les déplacer temporairement dans un logement. Donc, toute cette gymnastique.
Vous avez toujours des logements, tu sais, dans un sens qui sont libres pour
cette mobilité-là.
Ouais. Comme dans le cas de la fameuse place Lamoureux, là, où il y avait peut-être une trentaine de locataires par bloc qu'il a fallu.
Exactement. Exactement.
Oui. Alain Bouliane, donc, directeur pour l'Office d'habitation Rimouski-Neigette. Merci de votre passage ce matin en studio.
Merci à vous.